woman. I know feels good to have you back again, and I know that one day, baby, it's gonna really grow. Yes, it is. We're gonna go walking through the park. That's when it's calling me back
Les rendez-vous du classique sur Radio Agora.
Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Agora Classique au sein de l'Opéra Français. Nous avions terminé la dernière émission avec André Modeste Grétry et son opéra ballet La Caravane du Caire. Nous n'allons pas quitter Grétry, nous allons nous intéresser quelques instants encore à ce compositeur de la fin du XVIIIe siècle et plus particulièrement à un autre opéra comique de sa composition, Richard Cœur de Lion, qui fut créé en octobre 1784, bien sûr à Paris. Bien sûr à Paris, mais ni à l'opéra, ni à l'opéra comique, mais à la Comédie italienne. Alors quelques mots, le livret de ce Richard Cœur de Lion est de Jean Sedaine. Jean Sedaine, c'est un auteur dramatique qui fut lié de très près aux encyclopédistes d'Alembert et surtout à Diderot. Et Sedaine possède deux qualités essentielles pour un librettiste. D'abord, il sait mener une intrigue et surtout, il sait caractériser des personnages avec naturel, de manière vivante et divertissante. Et je l'ai déjà dit la semaine dernière, cette variété d'inspiration convenait bien à Grétry, dont les partitions dans ces opéras comiques s'attachaient justement à mettre en valeur les sentiments des personnages dans des sujets simples, aimables et touchants. De plus, Richard Cœur de Lion est considéré comme le premier opéra historique français qui annonce le style troubadour du début du romantisme. Nous y reviendrons. L'histoire est bien connue de Richard Cœur de Lion, c'est celle de la captivité de Richard Cœur de Lion à son retour de croisade. Cette histoire, on la retrouve d'ailleurs dans les récits de Robin des Bois ou dans le roman de Walter Scott, Ivanhoé. Nous avons déjà programmé au cours des semaines précédentes quelques extraits de cet opéra de Grétry. Voilà, pour en finir avec Grétry, je vous en propose quelques autres. Nous entrons dans le sujet, donc, et l'action de cet opéra se situe en Autriche, près de Linz. Blondel était l'écuyer de Richard Cœur de Lion, et il le recherche en se faisant passer pour aveugle. Il est accompagné dans sa recherche par son jeune valet, Antonio, et celui-ci, au tout début, chante un petit air charmant qui dit « La danse n'est pas ce que j'aime ». Alors Antonio est un rôle travesti interprété ici par la soprano Jacqueline Sternotte. L'orchestre, c'est l'orchestre de chambre de la radio-télévision belge sous la direction d'Edgar Donneux. Nous commençons par cette petite chanson.
C'est vrai, mon fils, je suis bien à plaindre.
Donc, en Autriche, est accueillie au château de Sir William. Or, Sir William a une fille, Laurette, qui est amoureuse de Florestan. Florestan, c'est le gouverneur d'une forteresse qui se dresse à quelques lieues de là et dont on aperçoit les tours. Mais Sir William n'apprécie pas du tout cet amour et il sermonne sa fille. Et puis, Laurette, demeurée seule avec Blondel, lui fait part de ses sentiments amoureux. Je vous propose là cet air de Laurette interprété par la soprano Maddy Mesplé.
Il m'a
Survient alors une dame noble, Marguerite de Flandre. Elle aussi est à la recherche de Richard, cœur de lion, car elle l'aime. Et elle prend Blondel sous sa protection. Au début de l'acte 2, Richard, cœur de lion, est prisonnier dans la forteresse gouvernée par Florestan et il maudit son sort et il exprime toute sa détresse. En chanson, bien sûr. Et Blondel, qui passait sous les tours, l'entend, et pour se signaler, il chante un air que Richard avait composé. Chacun, évidemment, reconnaît la voix de l'autre, et Grétry a composé là un duo qui commence par une fièvre brûlante, etc. Nous allons écouter ce duo entre Richard Cœur de Lion, qui est un rôle de ténor, et Blondel, qui est un rôle pour baryton. Les interprètes sont Charles Burles et Michel Trampon.
Quels accents, quelle voix, je la connais.
Et de mon cœur chassé, mon âme languissante, ma dame proche de lui, et loin de moi, l'âme s'enfuit.
C'est Blondel.
Si Marguerite était ici, je m'écrirais plus de soucis. Regardez sa parole, fait dans son tendre
Alors les soldats de la forteresse, entendant chanter Blondel, s'emparent de lui, mais celui-ci se dit porteur d'un message de Lorette pour le gouverneur Florestan. Et donc, il est amené auprès de Florestan et il lui dit qu'il est invité à se rendre à un rendez-vous avec Lorette la nuit suivante, pendant le bal que donnera Sir William dans sa demeure. Nous passons à l'acte 3. Blondel a abandonné son rôle d'aveugle, et il se fait reconnaître de Marguerite de Flandre en lui révélant que Richard est prisonnier tout près d'ici, dans la forteresse qu'on aperçoit. Ils conviennent alors, avec Sir William et les chevaliers qui accompagnent Marguerite de capturer ce soir le gouverneur, quand il viendra au rendez-vous pour le bal, et de l'obliger à délivrer Richard. On prépare donc le bal chez Sir William. Et évidemment, c'est l'occasion pour Gretry d'insérer un trio entre deux barytons et une soprano, entre donc Sir William et Blondel et Laurette. Et les trois personnages pensent à la venue du gouverneur Florestan, mais pas pour la même raison. William et Blondel pour le retenir, Laurette, elle, pour s'en réjouir. Ce trio, me semble-t-il, illustre bien la maîtrise de Gretry pour la composition des ensembles. Le voici, Laurette, Maddy Mesplé, Williams, Jean Van Gorp, Blondel, Michel Trampon. Encore un petit air simple et charmant que Gretry met là, vous allez voir, un paysan profite de cet instant pour donner une chansonnette empreinte de naturel et de bon sens rural qui vante les avantages d'être en couple. Et il dit, je cite, « Quand les bœufs vont deux à deux, le labourage en va mieux ». Le chœur accompagne cet air. Alors, il m'a paru intéressant de vous proposer ce court extrait qui exprime justement ce sentiment simple et aimable que j'évoquais il y a quelques instants et que Gretry s'est toujours efforcé de rendre dans ses opéras. L'interprète de cette chansonnette est la basse Jules Bastem.
Fric et froc, quand les bœufs vont deux à deux, le labourage en va mieux.
Quand les bœufs vont deux à deux, le labourage en va mieux.
Sans berger, si la bergère est dans un lieu solitaire, tout pour elle est ennuyeux. Mais si le berger s'il vendre, auprès d'elle vient se rendre, tout s'anime alentour d'eux. Et zic et zoc et zic et zoc et fric et froc.
quand les bœufs vont deux à deux, le labourage en va mieux.
Quand les bœufs vont deux à deux, le labourage en va mieux.
Qu'en dites-vous, ma commère, et qu'en pensez-vous, compère? Rien ne se fait bien qu'à deux, les habitants de la terre, hélas, ne dureraient guère s'ils ne disaient pas entre eux. Zic et zoc, et fric et fric et froc. Quand les bœufs vont deux à deux, le labourage en va mieux.
Quand les bœufs vont deux à deux, le labourage en va mieux.
Finalement, le gouverneur Florestan est capturé et la troupe de Marguerite, guidée par Blondel, délivre Richard de la forteresse. Mais bien sûr, on libère aussi le gouverneur et on l'unit à Laurette. Et finalement, tout s'achève dans un ensemble où les personnages chantent l'amour. L'amour entre Marguerite et Richard, qui vient d'être délivré, et l'amour entre Laurette et Florestan. Et chantent aussi l'amitié, l'amitié entre Blondel et Richard. Voici ce final dans lequel nous retrouvons, vous allez les reconnaître, quelques mesures du duo entre Richard et Blondel que nous avons écouté il y a quelques minutes. Je vous rappelle que cet enregistrement de 1977 est sous la baguette d'Edgar Donneux avec l'orchestre de chambre de la radio-télévision belge et les chœurs de l'Institut supérieur de musique d'église et de pédagogie de Bruxelles. Vous voyez, belge, Bruxelles. Il est à remarquer aussi que Edgar Donneux, le chef d'orchestre, Michel Trampol, le baryton, et Jules Bastin, dans cet enregistrement, qui est Michel, Jules Bastin basse, pardon, sont tous trois des artistes lyriques belges. Pourquoi je dis ça? Bah parce que, je l'ai dit en commençant, Grétry, ou la semaine dernière, peut-être Grétry est un compositeur belge. Certes, sa carrière a été faite à Paris, mais il était né en Belgique. Voilà, donc tous ces interprètes sont donc, je vous disais, des artistes belges, évidemment de la seconde moitié du XXe siècle. Donc nous écoutons le final de Richard Cœur de Lion de Grétry.
Thank you.
Alors, on ne saurait terminer le 18e siècle de l'opéra de France, en France, pardon, sans évoquer deux compositeurs qui sont, à des titres différents, deux figures emblématiques de cette période. Je veux parler de Étienne-Nicolas Méhul et de Luigi Cherubini. Alors, Cherubini, on en a déjà parlé un petit peu il y a quelques temps, mais on n'a jamais évoqué Méhul. Alors, je dis que ce sont deux figures emblématiques de cette période à des titres différents parce que l'un, Méhul, fut le compositeur vedette des opéras de la Révolution, alors que l'autre, Cherubini, fut parfois considéré comme un glorificateur de la Restauration. Et pourtant, s'ils furent rivaux, puisqu'ils étaient exactement contemporains, s'ils furent rivaux en tant que compositeurs lyriques, ils étaient amis et ils s'estimaient beaucoup mutuellement. Ils furent d'ailleurs tous deux inspecteurs au Conservatoire de Paris, nouvellement créé en 1795. Mais revenons à plus particulièrement à Méhul. Méhul s'impliqua directement dans la Révolution en composant plusieurs chansons guerrières et patriotiques, et évidemment, vous y pensez tous, notamment le chant du départ en 1794. Ce chant du départ qui est sur des paroles, il faut le mentionner, qui est sur des paroles de Marie-Joseph Chénier, écrivain et homme politique de la Révolution, mais à ne pas confondre avec son frère, le poète André Chénier, qui lui fut guillotiné le 25 juillet 1794. Alors, ce chant du départ, qui est souvent considéré comme une seconde marseillaise, avait d'ailleurs été choisi par Napoléon Ier comme hymne de l'Empire. En effet, Napoléon le préférait à la marseillaise. Alors, revenons aux opéras de Méhul. Les compositions d'opéras de Méhul demeure cependant d'un classicisme dans lequel il se réclame lui-même de la réforme de l'opéra français qu'avait initié Gluck 30 ans auparavant. Méhul était un admirateur de Gluck. Et il était d'ailleurs arrivé à Paris en 1779, il avait 15 ans, avec une lettre de recommandation auprès de Gluck. Et à l'image de Gluck à Paris, Méhul privilégie la mise en valeur musicale des sentiments et l'harmonie par rapport à la mélodie. Vous voyez, tout le contraire de Grétry. On revient à quelques années avant Grétry, c'est-à-dire qu'on revient à Gluck. Le succès des opéras de Méhul fut important, mais il s'est éteint assez rapidement à partir de 1810, et d'ailleurs les enregistrements actuels des opéras de Méhul sont très peu nombreux. Alors, nous allons nous intéresser quelques instants à l'un de ces opéras de Méhul qui s'appelle Stratonis. C'est un petit opéra en un acte qui a eu un grand succès à la salle Favart en mai 1792 et qui consolida la réputation de Méhul à cette époque. Bon, le sujet est très simple. Il est tiré d'un épisode, d'une histoire véridique, de la véritable histoire du roi de Syrie, qui s'appelait Séleucus, au 4e siècle avant Jésus-Christ. Séleucus avait un fils, Antiochus, né d'un premier mariage et qui est amoureux à mourir de Stratonis, la deuxième épouse de son père. Et celui-ci, son père donc, pour le sauver, se sépare de Stratonis et la laisse épouser à son fils. Voilà, ça c'est l'histoire. Nous écoutons d'abord l'air dans lequel Séleucus, qui ne connaît pas les raisons de la mélancolie dont souffre son fils Antiochus, lui promet des trésors et même son trône s'il se confie à lui. Séleucus, le ténor Étienne Lescroart, orchestre Capella Coloniensis, sous la direction de William Christie.
Avez-vous quelques affaires, quelques Antiochus. Oh, mon cher fils, oh, mon cher fils. Versez tous vos chagrins dans le sang paternel. Ne craignez pas.
Alors dans ce petit opéra Stratonis, les dialogues en alexandrin sont très très nombreux. On pourrait presque dire que c'est une pièce avec des presque avec des morceaux chantés. J'en parlais il y a quelque temps. Et la musique de Méhul, bien que elle soit très riche sur le plan de l'harmonie, puisqu'il privilégiait l'harmonie, donne. C'est une opinion personnelle, mais c'est aussi une opinion que j'ai lue ailleurs, donne un ensemble compassé et emphatique, bien à l'image du répertoire de ces premières années de la Révolution française. On ne s'amusait pas toujours. Nous allons y revenir. Nous écoutons le final de Stratonis, dans lequel les quatre personnages et le chœur se réjouissent de l'heureuse issue. Les interprètes, Séleucus, ténor, Étienne Lescroart, Antiochus, ténor, Yann Beron, Stratonis, soprano, Patricia Petitbon. Patricia Petitbon, c'est la Patricia Petitbon que nous avons écoutée il y a deux semaines dans les Indes Galantes et qui a eu un succès phénoménal à l'Opéra de Paris il y a quelques années là. Et puis, il y a le médecin Erasistrat ici, qui est le baryton Karl Daimon. L'orchestre, je vous le disais, et le chœur Capella Coloniensis sous la direction de William Christie.
Pour toi.
toujours avec Étienne, Nicolas, Méhul, mais cette fois pour un opéra comique d'un tout autre genre, une comédie. Une comédie dont la création eut lieu en février 1801 et cette création mérite quelques remarques. Quelque temps auparavant, le premier consul Bonaparte, il n'est pas encore Napoléon, il n'est pas encore empereur, reprochait, semble-t-il, à Méhul de ne pas avoir écrit d'opéra un peu léger. Bonaparte appréciait l'opéra bouffe à italien et il trouvait que les compositions de Méhul manquaient singulièrement de fantaisie. Faut dire que, je vous ai dit que j'allais en reparler, il faut dire que durant les 10 premières années de la Révolution, et en particulier sous la Terreur, tout le monde vivait dans la crainte et que le public de l'opéra avait désappris le rire du divertissement à l'italienne. C'était la guillotine qui fonctionnait à temps plein. Méhul se mit donc à composer un opéra comique en un acte, léger et chantant, intitulé « L'Irato » ou « L'Emporter ». L'Irato, je crois que ça veut dire « L'Irascible » en italien. Et cette petite opéra comique obtint un grand succès et Bonaparte apprécia. Méhul reçut d'ailleurs, en compagnie de Grétry, lui aussi, l'une des premières légions d'honneur instituées par Napoléon Bonaparte en 1802. Alors, l'intrigue de cet emporter, elle est un peu compliquée, mais elle est bien banale. On le retrouve plus tard chez Offenbach, on le retrouve chez ce type d'intrigue chez plusieurs compositeurs. Alors voilà, Lysandre a un oncle irascible qui s'appelle Pandolfe. C'est lui l'emporté, Pandolfe. Et celui-ci veut marier sa nièce Isabelle, au vieux et pédant docteur Baloir. Mais voilà, vous l'avez deviné, Lysandre et Isabelle s'aiment. De même d'ailleurs que Scapel, le serviteur de Lysandre, qui aime Nérine, la femme de chambre d'Isabelle. Et les quatre jeunes gens vont donc tout faire pour déjouer les intentions de Pandolfe et pour que l'amour triomphe. Nous écoutons justement Scapel proposant son plan aux trois autres dans le quatuor que voici. Scapel, baryton Miljenko Turk, Lysandre, ténor Cyril Ouviti, Isabelle soprano, Pauline Courtin, Nérine soprano, Svenja Empel, ensemble l'Arte del Mondo, direction Werner Erhardt.
Lode donni tout aussitôt, qu'on obéisse sans diligence.
N'allons pas perdre un seul mot, n'allons pas perdre un seul mot.
L'ordre donni tout aussitôt, qu'on obéisse sans diligence.
L'ordre donné tout aussitôt, qu'on obéisse en diligence.
Oui, oui, voilà le moyen. Très bien, fort bien, très bien, très bien. Écoutez bien, faites silence.
Écoutons bien, faisons silence.
Eh bien, ce moyen,
ce moyen, ce moyen, de prendre patience.
Scapin,
le ciel m'inspire et je commence.
D'abord d'écouter l'épouse d'un imen qui paraît lui plaire.
D'abord d'écouter l'épouse d'un imen qui paraît lui plaire. Après.
Contre le cher docteur de l'oncle excitait la colère.
Contre le cher docteur de l'oncle excitait la colère. Après.
Par votre sang froid ordinaire, on a posé à sa fureur.
Par votre sang froid ordinaire, on a posé à sa fureur. Après.
Bien vite se taire, je crois entendre le docteur.
Le docteur, docteur.
Le docteur,
le docteur. Séparons-nous, mais espérons.
Séparons-nous, mais espérons.
Séparons-nous, mais espérons.
Séparons-nous, mais espérons.
Alors donc, les quatre jeunes personnages ne veulent pas qu'Isabelle épouse Baloir, évidemment. Et pour dissuader Baloir de l'épouser, Isabelle laisse entendre qu'elle a déjà un amant et qu'en cas de mariage, après tout, elle poursuivra la liaison avec cet amant. Ce qui ne plaît pas du tout à Baloir, évidemment. Quant à Lisandre et Scapin, eux, ils invitent Baloire à trinquer aux jolies femmes et au bon vin. Évidemment, celui-ci s'enivre et il se présente sous devant Pandolfe qui le chasse définitivement. Voilà, je vous propose le trio. Le trio qu'on pourrait qualifier de chanson à boire, au cours duquel Scapin et Lisandre font boire le docteur Baloire. Baloire, ténor, Georg Poplutz. Scapin, je vous l'ai dit, baryton, Julien Couture. Lisandre, ténor, Cyril Ouvitti. Ensemble, l'Arte del Mondo, direction Werner Erhardt.
Femme jolie et du bon vin, voilà les vrais biens de la vie. Femme jolie et du bon vin, voilà les vrais biens de la vie. Si je pouvais, au gré de mon avis, régler les arrêts du destin, oui, je voudrais soir et matin vider un flacon de bon vin auprès des femmes bien jolies, auprès des femmes bien jolies. Femme jolie et du bon vin,
voilà les vrais biens,
voilà les vrais biens de la vie. Femme jolie et du bon vin,
voilà les vrais biens de la vie.
Quand on est jeune, on désire, on adore, mais quand on est sur le retour, si l'on ne peut tout du moins, on peut boire encore et dire chaque jour.
Femme jolie et du bon vin,
voilà les vrais biens de la vie.
Femme jolie et du bon vin,
voilà les vrais biens de la vie. Quand je fais sauter en touchant, quand je vois petit pied mignon,
petit pied mignon, il sourit,
je souris,
il sourit.
Mon âme est contente,
son âme est contente.
Et si par hasard, qu'on est jupon, agité par un vent flippant, laisse entrevoir jambe charmante, ah, ah. Ah, ah, je rajeunis comme mes
os.
Je sens,
il sent,
j'éprouve,
il éprouve,
je chante,
il sauvante,
je chante,
il chante,
il chante.
Femme jolie et du bon vin,
voilà les vrais biens de la vie.
Femme jolie,
femme jolie et du bon vin,
voilà les vrais biens de la vie.
Femme jolie et du bon vin,
voilà les vrais biens de la vie.
Voilà les vrais biens de la vie.
Voilà les vrais biens de la vie.
Voilà le vrai bien de la vie.
Voilà le vrai bien de la vie.
Voilà
Alors après ces deux extraits de Lirato, opéra comique de Méhul, nous quittons Méhul et nous terminerons aujourd'hui, je l'avais annoncé en commençant l'émission, avec Luigi Cherubini, qui est un contemporain et un ami de Méhul, à cette fin du XVIIIe siècle. Nous avons dit aussi que Cherubini fut parfois considéré comme un partisan de la Restauration, mais surtout, il mourut beaucoup plus tard que Méhul. Méhul mourut en 1817, alors que Cherubini mourut en 1842. Et la carrière de compositeur de Cherubini se prolongea donc dans la première moitié du XIXe siècle. Il assura en outre, non content d'avoir été nommé inspecteur au Conservatoire de Paris, il assura la direction du Conservatoire de Paris entre 1821 et 1842. Et dans cette fonction, justement, il participa à la formation musicale de beaucoup des compositeurs français du XIXe siècle. Tous ceux qu'on va citer par la suite, qu'on a déjà cités, on peut parler de Bizet et de bien d'autres, de non pas Meyerbeer, puisque Meyerbeer était allemand. Donc, tous ces compositeurs français sont passés par le conservatoire et donc ont bénéficié de la formation de Cherubini. Alors ce sont quelques extraits de Médée, de Cherubini, que je vous propose maintenant. Dans la mythologie grecque, Médée est l'épouse de Jason. Elle l'a aidé à s'emparer de la toison d'or et lui a donné deux enfants. Et Jason et Médée se sont réfugiés à Corinthe. Seulement voilà, Jason vient de répudier Médée pour épouser Créuse. Créuse, elle est souvent nommée aussi Dircé. Créuse qui est la fille du roi de Corinthe. Et le drame va se nouer. Mais avant d'en venir au drame proprement dit, encore quelques mots. La première représentation eut lieu en mars 1797 au Théâtre Feydeau à Paris. Et il faut mentionner que le livret en français est de François Benoît Hoffmann, librettiste de cette époque. Mais si je le cite en insistant, c'est parce que c'est Benoît François Hoffmann qui collabora en tant que librettiste avec Méhul pour plusieurs opéras durant la période révolutionnaire et en particulier pour Stratonis, le petit opéra que nous avons écouté au tout début de l'émission. Alors, une version en italien fut créée à la Scala de Milan, une version, je parle cette fois de Médée, évidemment, en 1909. C'est cette version en italien que popularisa Maria Callas dans le rôle de Médée à partir de 1953 et que nous allons écouter aujourd'hui. Alors, je reviens au drame. À la fin du premier acte, Médée est venu voir Jason pour lui rappeler le bonheur qu'ils ont vécu ensemble. Mais celui-ci la repousse à nouveau et elle menace de se venger. Voici ce duo dans lequel Jason et Médée s'affrontent. Un mot de l'enregistrement. Malheureusement, l'enregistrement que je possède là n'est pas de très bonne qualité technique, que je vous prie de nous en excuser. Donc, duo Jason-Médée qui s'affrontent. Médée, mezzo-soprano, Maria Callas. Je vous l'ai dit, Jason, ténor, John Vickers, orchestre de la Scala de Milan, sous la direction de Thomas Schippers.
Oh!
A voulu fuir avec ses enfants, mais elle en a été empêchée par la garde de Corinthe. Et elle exprime à la fois sa détresse et sa colère devant Créon, le roi de Corinthe, le père de Créuse donc, Créon qui veut la chasser sans ses enfants. Nous écoutons la fin de ce duo entre Créon et Médée. Créon, basse Nikolaï Guirov et Médée, Maria Callas. A autorisé Médée à passer une dernière journée avec ses enfants avant d'être chassé de Corinthe. Mais Médée, qui est aussi magicienne dans la mythologie grecque, entreprend son plan de vengeance en envoyant à Créuse, qui va épouser Jason, pour ses noces, un voile empoisonné qui causera sa mort. À la fin du deuxième acte, le chœur chante sa joie du prochain mariage de Jason et Créuse pendant que Médée crie sa colère et sa rancœur. Nous écoutons ce final du deuxième acte.
Troisième acte.